Nous sommes le vendredi 2 juin 2023 et il est 18h30 en temps universel. Bonsoir et bienvenue à l'écoute du Monde aujourd'hui en direct de Washington au micro Jacques Aristide. Les titres que nous allons développer ce soir. Au Sénégal, le pouvoir déploie des forces armées dans Dakar au lendemain des troubles meurtriers après la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko.
Des ruelles jonchées de pierres, des infrastructures en ruine, une institution balafrée et des étudiants qui traînent leurs valises et sacs pour rejoindre leur famille.
Les bombardements se poursuivent au Soudan malgré les sanctions américaines contre l'armée et les paramilitaires. Les États-Unis ont pu éviter in extremis la menace d'un défaut de paiement. Et comme à l'accoutumée, les nouvelles sportives et économiques à venir dans 10 minutes environ. Les appels au calme et à l'arrêt des violences se sont succédés ce vendredi au Sénégal et à l'étranger après un déchaînement qui a poussé les autorités à déployer l'armée à Dakar et qui fait craindre un embrasement en cas d'arrestation de l'opposant Ousmane Sonko, candidat à la présidentielle de 2024, condamné à de la prison ferme. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, condamne la violence et exhorte tous les acteurs à la retenue, a dit un porte-parole. Langage similaire de la part de la France aux relations fortes avec le Sénégal et extrêmement préoccupé, Paris appelle à cesser les violences et à résoudre cette crise dans le respect de longues traditions démocratiques du Sénégal. Le point avec Sédina Bagueille de la capitale sénégalaise.
La situation est assez calme ce vendredi, même s'il y a des manifestations sporadiques qui continuent un peu partout dans la capitale. Dans la banlieue à Pékin, il y a carrément des affrontements assez violents entre les forces de l'ordre et des militants pro-Ousmane Sonko. Mais la situation d'hier, par rapport à hier, la situation est quand même assez calme.
Notre correspondant Sédina Bagueille à Dakar. Les ambassades d'une quinzaine de pays à Kinshasa appellent à des élections pacifiques et transparentes à la fin de l'année en République démocratique du Congo. Dans une déclaration conjointe publiée aujourd'hui, elles évoquent leurs préoccupations sur plusieurs points. Un peu plus de 6 mois des élections présidentielles, législatives, provinciales et communales prévues le 20 décembre. La tension commence à monter, en particulier depuis la répression d'une manifestation de l'opposition le 20 mai dernier dans la capitale. Réitérons notre volonté d'accompagner la RDC et la population congolaise sur la voie d'élections compétitives, pacifiques, inclusives et transparentes, écrivent les signataires dont les ambassades des États-Unis, d'Allemagne, de France, du Royaume-Uni ainsi que la délégation de l'Union européenne. Au Soudan, les combats se poursuivent ce vendredi après l'échec des pourparlers sur le maintien de la trêve. Le point avec Jean-Roger Billon.
L'artillerie lourde continue de faire trembler Khartoum malgré les sanctions américaines contre l'armée et les paramilitaires qui semblent préparer une escalade dans leur lutte pour le pouvoir. Après 7 semaines de guerre entre l'armée du général Abdel Fattah al-Burhan et les paramilitaires du général Mohamed Hamdan Daglo qui ont fait plus de 1800 morts et plus d'un demi-million de déplacés et de réfugiés, Washington a haussé le ton. La Maison-Blanche a annoncé des sanctions contre 2 entreprises d'armement de l'armée et 2 sociétés, dont l'une opérant dans les mines d'or du Soudan tenues par le général Daglo et 2 de ses frères. Le Programme alimentaire mondial et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ont affirmé que les pillages ont perturbé l'aide, appelant les 2 parties à respecter le travail des agences humanitaires.
Anthony Blinken se rendra la semaine prochaine en Arabie Saoudite, pays avec lequel les États-Unis entretiennent des relations délicates. Le déplacement du chef de la diplomatie américaine dans le Royaume intervient alors que les 2 pays sont médiateurs dans le conflit au Soudan, sans parvenir cependant à faire respecter plusieurs trêves entre les belligérants. La Tanzanie annonce la fin de l'épidémie de maladie à virus de Marburg, un cousin d'Ebola qui provoque lui aussi une fièvre hémorragique. 2 mois après le début des contagions, selon l'Organisation mondiale de la santé, au total 9 cas et 6 morts ont été enregistrés lors de l'épidémie qui a été déclarée le 21 mars dernier, indique l'OMS dans un communiqué publié aujourd'hui, en ajoutant que le dernier cas confirmé s'est révélé négatif le 19 avril, ce qui a déclenché le compte à rebours obligatoire de 42 jours pour déclarer la fin de l'épidémie.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les États-Unis ont suspendu le plafond de leur dette et écarté à quelques jours près le danger d'un défaut de paiement. Le Sénat américain a adopté hier soir un projet de loi déjà approuvé à la Chambre des représentants. Les détails avec John Lyndon.
C'est une grande victoire pour l'économie et pour le peuple américain, a salué le président Joe Biden. La secrétaire au Trésor Janet Yellen, dans un communiqué, s'est dit ravie de ce vote. C'est pour éviter un scénario aux répercussions catastrophiques que le président démocrate Joe Biden et le patron républicain de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, ont conclu un compromis. L'accord a déjà été approuvé mercredi soir par une grande majorité des élus de la Chambre des représentants et il est passé au Sénat hier dans une sorte de procédure accélérée. Il revient désormais à Joe Biden de le promulguer. Une simple formalité que le dirigeant démocrate s'est dit impatient de remplir. Selon le Trésor américain, la première puissance économique mondiale avait jusqu'à lundi pour éviter le défaut de paiement.
Le chef de la diplomatie américaine affirme que la seule voie pour parvenir à une véritable paix est de continuer à armer et renforcer l'Ukraine. D'après Anthony Blinken, l'invasion russe a été un échec stratégique pour Moscou et il rejette toute idée de cesser le feu qui serait défavorable à Kiev. Le point avec Eric Manirakidza.
Dans un discours en Finlande, Anthony Blinken a fait valoir qu'une Ukraine forte est un prérequis pour une vraie paix, en vue de dissuader de se défendre en cas de future agression. Selon Washington, l'invasion de l'Ukraine ordonnée par le président russe Vladimir Poutine est un cas d'école de l'échec et même d'un échec stratégique pour la Russie. M. Blinken a relevé les pertes russes sur le terrain et sur les marchés européens. Son discours vise à afficher une position claire des États-Unis au moment où certains pourraient être tentés d'appeler à un armistice ou à un cessez-le-feu. Le secrétaire d'État américain a également nié que la guerre en Ukraine ait détourné les États-Unis de leur rivalité et de leur confrontation croissante avec la Chine. Selon lui, les États-Unis sont devenus plus attentifs à la menace chinoise depuis l'invasion de l'Ukraine.
Au moins 2 civils ont été tués et 21 blessés ce vendredi dans des bombardements sur la région russe de Belgorod, frontalière de l'Ukraine où la capitale Kiev a subi une 6e vague de frappes en 6 jours. La région de Belgorod est visée depuis plusieurs jours par des frappes d'une intensité sans précédent en territoire russe depuis le début du conflit avec l'Ukraine l'an dernier. Nous entrons dans une nouvelle ère qui demande de nouvelles stratégies. Un haut conseiller du président Joe Biden a détaillé ce vendredi la stratégie américaine en matière d'armes nucléaires en insistant sur la volonté de dialogue avec la Russie et la Chine. Les États-Unis sont prêts à respecter les limitations du nombre d'ogives nucléaires fixées par l'accord de non-prolifération New START, les liant avec Moscou tant que la Russie fera de même, a dit Jake Sullivan, conseiller à la Sécurité nationale de la Maison-Blanche. La Russie a suspendu sa participation à ce traité, le dernier accord bilatéral du genre liant les 2 anciens rivaux de la guerre froide. Une manifestation contre le chef de l'État turc Recep Tayyip Erdogan et l'adhésion de la Suède à l'OTAN est autorisée à Stockholm ce dimanche. Malgré les protestations d'Ankara, la mobilisation est intitulée « Non à l'OTAN, pas de loi Erdogan en Suède ». Réélu le 28 mai à la tête de la Turquie, le président Erdogan a bloqué jusqu'ici l'entrée dans l'Alliance Atlantique de la Suède, lui reprochant d'être un havre pour des militants kurdes qualifiés de terroristes par Ankara. Des justiciers qui voulaient nettoyer les cités par la force. En France, le parquet a requis aujourd'hui jusqu'à 6 mois de prison ferme contre 4 policiers de région parisienne, jugés pour des violences commises sur des jeunes de quartier sensibles, âgés de 30 à 48 ans. 6 policiers comparaissent depuis mercredi dernier au tribunal de Bobigny pour des faits de violence et faux procès-verbaux en 2019-2020 au préjudice d'habitants de cités connues pour héberger du trafic de drogue. Voilà donc pour le journal. Sans plus tarder, un condensé des nouvelles économiques en Afrique. Il est l'heure de la Minute Éco avec Nathalie Barge.
Le Togo a signé 2 accords avec le Maroc pour la mécanisation de l'agriculture et la production locale d'engrais. Ces accords ouvrent la voie à une étude de faisabilité pour implanter une usine d'engrais phosphatés dans le pays avec l'appui en expertise et en technologie de l'opérateur marocain. Le pays avait fait appel en 2019 au groupe nigérian Dangote pour la transformation locale des phosphates. Le président de l'Union monétaire de l'Afrique centrale, Jean-Baptiste Ondaï, a effectué une visite de travail à Bangui hier. Il a été reçu par le président Faustin Archange Touadéra, qui dirige actuellement la conférence des chefs d'État de la CEMAC. À l'issue de la rencontre, M. Ondaï, par ailleurs ministre de l'économie et finances de la République du Congo, a déclaré que les échanges ont porté sur la dynamique entre les pays de la CEMAC au plan monétaire et financier. La Société financière internationale a approuvé un crédit de 5 millions de dollars à Interbank Burundi. La facilité accordée permettra à la banque commerciale d'accroître son soutien aux entreprises burundaises d'import-export qui vont ainsi générer des devises. L'an dernier, la SFI a conclu un partenariat technique avec la banque burundaise pour renforcer sa capacité à servir les petites et moyennes entreprises qui représentent plus de 50% des emplois dans le pays.
Et maintenant les sports avec Eric Manirakidza. Bonsoir Eric.
Bonsoir Jacques.
Parlons de la Coupe d'Angleterre. Manchester United veut barrer la route du triplé à City.
Seul club anglais de l'histoire à avoir remporté championnat, coupe et ligue des champions la même saison en 1999. Manchester United voudra tuer dans l'œuf les espoirs de City de limiter cette année lors de la finale de la Coupe d'Angleterre samedi, c'est demain à Wembley. Si les Red Devils s'échouent dans la première finale de l'histoire opposant les deux rivaux mancuniens, leur dernier espoir sera de voir l'Inter Milan remporter la Champions League une semaine plus tard à Istanbul.
Ligue Europa, Eric, procédure contre Mourinho pour langage insultant envers l'arbitre.
Les poursuites disciplinaires de l'UEFA visent également les deux clubs pour une série d'infractions plus habituelles sur la scène européenne. Envahissement du terrain, jet de projectiles, allumage de fumigène et comportement incorrect de l'équipe côté Séville. Et jet de projectiles, allumage de fumigène, dégradation, mouvement de foule et comportement incorrect de l'équipe s'agissant de la S-Rome.
Amical Argentine-Australie en Chine, jusqu'à 630 euros pour voir Messi, Eric.
Tout à fait Jacques, les fans chinois de football auront à payer jusqu'à 30 euros pour voir Lionel Messi jouer à Pékin le 15 juin lors du match amical entre Argentine et Australie, ont indiqué ce vendredi les organisateurs. Le choc sera une revanche des huitièmes de finale de la Coupe du Monde organisée au Qatar fin 2022, où l'Albicéleste l'avait emporté 2-1 contre les Soceros.
Foot féminin, les faibles ventes de billets pour la Coupe du Monde inquiètent en Nouvelle-Zélande.
La FIFA a annoncé ce vendredi la mise en vente d'environ 250 000 billets supplémentaires pour la Coupe du Monde de football féminin qui se déroule du 20 juillet au 20 août, alors que les ventes en berne pour les matchs disputés en Nouvelle-Zélande suscitent des inquiétudes en marge de la vente des billets. La FIFA, qui s'inquiète d'un désintérêt pour le foot féminin, a récemment exhorté les chaînes de télévision à mettre plus de moyens sur la table pour acquérir les droits de retransmission du tournoi, alors que plusieurs pays, dont la France, n'ont toujours pas de diffuseur. Un nouveau lot de billets sera mis en vente mardi pour les 64 matchs organisés en Australie et en Nouvelle-Zélande.
Et pour terminer, Eric, finale NBA, les Nuggets remportent la première manche.
C'est dans le dernier quart-temps que Denver a maîtrisé Miami sur son parquet pour remporter la première manche de la finale de la NBA. C'était hier soir.
Pour leur première à ce stade, en 47 ans de présence dans la Ligue, les Nuggets n'ont pas été paralysés par l'enjeu, serein comme leur double MVP serbe Nikola Jokic, qui est monté en puissance dans ce premier match, faisant d'abord briller ses coéquipiers.
L'actualité sportive, Eric Maniera-Kitza, merci beaucoup.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Il est l'heure maintenant de vous proposer notre tranche magazine dans Le Monde aujourd'hui. Jacques Aristide toujours avec vous. Un grand merci pour votre fidélité à VOA Afrique. Retour au Sénégal, où les autorités ont déployé ce vendredi des hommes en tenue et armes de combat dans la capitale. Après le déchaînement de violence d'hier, beaucoup redoutent un embrasement si le pouvoir a fait arrêter l'opposant Ousmane Sonko, candidat à la présidentielle, condamné à 2 ans de prison ferme. De Dakar, le reportage de notre correspondant Seydina Bagueye.
Des ruelles jonchées de pierres, des infrastructures en ruine, une institution balafrée et des étudiants qui traînent leurs valises et sacs pour rejoindre leur famille. À l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, les scènes de chaos d'hier ont laissé place à la désolation. Cet étudiant, qui a requis l'anonymat, témoigne.
L'unique responsable pour moi, c'est le président de la République. Parce qu'à un moment donné, les gens sont allés à un moment où on est frustré. Les gens n'ont pas le choix. Parce que la personne, quand elle est en colère, la seule chose qu'il aura à faire, c'est de déverser sa colère, de montrer son désaccord. Pour moi, c'était justement ça. C'est la raison pour laquelle, ici à l'université, les gens ont quasiment tout brûlé. Donc c'est énorme les dégâts qui se sont posés l'année dernière, hier. Donc c'est vraiment regrettable pour un pays comme le Sénégal, où sur le côté démocratique, on a été un exemplaire en Afrique et quasiment partout dans le monde entier.
Exemple réputé pour être un havre de paix et de stabilité sociale en Afrique, le Sénégal a relativement surpris les étrangers qui y vivent. Ahiar, étudiant béninois de l'école de médecine vétérinaire, ne cache pas la peur qu'il a ressentie hier. Il prie pour un retour rapide à la cohésion sociale.
Bon, quand même, c'est de la panique. Hein. Moi, j'ai ressenti une panique. Donc, ce qui s'est produit, voilà, et tout, vraiment, vraiment, c'est désolant. Parce que moi, c'est la première fois que je vois ce genre de manifestation-là. Bon, avant, donc, la manifestation de 2021. Je souhaite à ce que toutes les têtes pensantes du Sénégal, ainsi que les autorités religieuses aussi, donc, qu'ils s'assoient, qu'ils fassent une assise, voilà. Une assise nationale pour discuter sur ces sujets-là, en fait, pour qu'il y ait un retour à la paix du Sénégal.
Après une journée à feu et à sang à Dakar et dans plusieurs villes du pays, un calme précaire est de mise, même si certaines zones sont toujours le théâtre d'affrontements entre les forces de l'ordre et les manifestants. Pour limiter les débordements, l'armée a été déployée sur plusieurs axes stratégiques. Seydina Bagueye pour VOA Afrique, Dakar.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
En Côte d'Ivoire, la distribution de l'eau potable à Yopougon, la plus grande commune d'Abidjan, connaît un dysfonctionnement. Depuis des semaines, bon nombre de foyers peinent à avoir le liquide précieux. Des habitants font part de leur ras-le-bol. Par endroits, l'eau sort au compte-gouttes des robinets. Le reportage de Delphine Boïse, notre correspondante à Abidjan.
Plusieurs quartiers de Yopougon sont confrontés à une pénurie d'eau. Des habitants vivent cette situation depuis plusieurs semaines, voire 2 mois. Dans le quartier Ananure-Oasis, des voix se lèvent pour décrier cette situation.
Il n'y a pas l'eau dans le robinet, on fait comment? L'eau, on est en train de prendre là. On monte jusqu'au troisième avec. Oh, aussi, les jeunes qui viennent nous livrer aussi les bidons d'eau là, ils nous prennent un bidon à 250 ou bien 300. On souffre. Toi, c'est trop. L'État n'a qu'à voir.
On vit cette situation là, vraiment, c'est difficile. Il y a des jours même là où on paye l'eau là, mais il n'y a pas l'eau. Souvent même là, tu peux faire une journée sans te laver.
Depuis que je suis venu dans ce quartier, on a problème d'eau. Mais quand on se réveille la nuit, on gagne un peu d'eau pour puiser. Mais ça va pratiquement 5 mois. Depuis dans le mois de décembre, janvier jusqu'au actuellement, on n'a plus l'eau.
Comment faire quand on sait que l'eau est indispensable à la vie? Ces femmes qui habitent des immeubles révèlent comment elles se débrouillent pour s'approvisionner en eau dans d'autres quartiers.
Je m'en vais chercher l'eau dans autre quartier. Et puis je viens, je mets dans trois roues là. Monter taxi là, je viens de faire descendre. Tout le monde n'a pas les moyens. Je ne peux pas payer les gens pour faire monter chez moi. Donc nous-mêmes on prend. Donc c'est ça qui m'a rendu malade.
On payait l'eau, on payait les centaines de dollars. Ceux qui étaient à l'immeuble, on les vendait à 7 000 francs pour faire monter. Nous on en bas, on vient déposer les fuites d'eau, 5 000. Et puis nous-mêmes on chargeait, voilà la maison.
Comment en est-on arrivé à cette situation? Le directeur général de la SODECI, la Société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire, Amadou Bakayoko.
Les eaux de ruissellement venant donc d'Abobo, en très grande quantité avec les intempéries, ont fait rompre une canalisation qui est dans le lit de la rivière. Et donc nous avons des conditions de travail très difficiles parce qu'il faut d'abord isoler toute cette zone-là avant que les équipes puissent intervenir. C'est ce à quoi ils s'attellent donc depuis trois jours.
Et les travaux se poursuivent sur le terrain pour réparer la conduite d'eau qui transporte plus de 30 000 mètres cubes d'eau par jour. Boaké Fofana, ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement.
Dans les prochaines 48 à 72 heures, je pense, elles auront fini. Peut-être un peu une autre journée pour faire des réglages, faire du rinçage des tuyauteries. Et puis la situation va revenir à la normale, enfin, situation avant l'incident.
En attendant, les camions citernes de l'Office national de l'eau potable, ONEP, essaient de pallier à la situation, mais ce n'est pas suffisant.
Maman m'a pas servi, c'est dans le gris-gris, mais maman, il y a eu ça. C'est dans le tiré-tiré-tuyau, là, qu'il y a eu petit dans ma bassine, là. Et non, depuis là, on m'a pas encore servi, depuis deux heures. Pas là, ça peut rien faire, il y a beaucoup d'enfants à la maison.
En attendant donc la desserte totale des quartiers en eau, ce sont les petits chauffeurs des tricycles et des jeunes à brouettes qui se frottent les mains en vendant dans les ménages. Delphine Bouise, Abidjan, VOA, Afrique.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Bangui, c'est sur 101.7 FM en République centrafricaine.
En République centrafricaine, les élections locales qui étaient prévues pour le 16 juillet ont été reportées sine die. Elles n'ont pas eu lieu depuis au moins 15 ans et cette semaine, le président Faustin Archange Touadéra a annoncé la tenue d'un référendum constitutionnel qui lui permettrait de remettre les compteurs à zéro et pouvoir se représenter pour un troisième mandat. Idriss Fall a recueilli la réaction de l'ancien Premier ministre Anissé Deloguélé du Bloc républicain pour la défense de la Constitution centrafricaine.
Une fois de plus, il se moque de la population. Nous sommes parmi les derniers pays les moins développés au monde. Nous avons besoin de tout. La population est démunie de tout. La seule chose qui l'intéresse, c'est un référendum pour s'éterniser au pouvoir. Un référendum, c'est une opération électorale qui coûte cher. Avec l'argent de ce référendum, il peut régler beaucoup de problèmes dans les hôpitaux, les problèmes de survie de dizaines de milliers d'enfants. Mais la seule chose qui l'intéresse, c'est rester au pouvoir sans résultat. Donc je trouve ça très malheureux.
Par ailleurs, on a entendu un ambassadeur centrafricain à Moscou dire que le pays voudrait accueillir une base militaire russe.
Ça n'engage que l'ambassadeur. La Russie est un pays en guerre. Je pense qu'ils ont besoin de leurs militaires en ce moment là-bas. L'installation d'une base militaire, c'est pas un ambassadeur qui le décide. C'est quelque chose qui se discute au niveau de l'Assemblée nationale. C'était dans son enthousiasme, l'ambassadeur a voulu faire plaisir à ses patrons. Mais c'est une déclaration qui n'engage que lui.
Quand même, il y a une certaine présence russe actuellement en Centrafrique.
Les Russes étaient réputés venir juste pour former les militaires centrafricains dans le maniement des armes qui ont été livrées sur autorisation du Conseil de sécurité des Nations Unies. Maintenant, avec l'attaque de Bangui par la CPC ça leur a donné un prétexte pour venir en masse et sous le prétexte de mettre de l'ordre, ce qui les intéresse beaucoup plus. Ils sont dans les mines, dans toutes les ressources du pays, qu'ils se servent bien.
Le gouvernement annonce la tokenisation des ressources de Centrafrique.
Je pense que même ceux qui ont écrit la loi n'ont pas compris ce qu'était la tokenisation. S'ils l'avaient compris, dans l'état actuel des infrastructures de notre pays, dans l'état actuel des ressources humaines dans notre pays, dans l'état actuel de l'organisation de l'administration de notre pays, parler de tokenisation des ressources naturelles, des ressources forestières, des ressources foncières, ce qu'aucun autre pays n'a fait avant nous, tout ça, c'est se moquer de la population. C'est une volonté de mafia. Les autorités ne sont préoccupées que par le gain facile de l'argent. Rien n'est prévu pour le trésor public. D'ailleurs, vous avez vu qu'ils ont écarté complètement le ministre des Finances de tout le processus de cette loi. Il n'y a rien dans la loi qui fasse le lien entre cette procédure-là et les recettes de l'État. Donc on voit très bien que c'est une loi qui n'est pas faite pour la République centrafricaine, mais qui est faite pour exploiter, pour piller la République centrafricaine.
L'ancien Premier ministre centrafricain Anicet Deloguélé du Bloc républicain pour la défense de la Constitution en Centrafrique.
This is the voice of America. Washington, D.C.
Ici, aux États-Unis, le spectre d'un défaut sur la dette a été écarté par le Congrès du pays. Après la Chambre des représentants, le Sénat américain a approuvé hier soir l'accord entre les républicains et les démocrates sur la suspension temporaire du plafond de la dette, évitant ainsi un défaut de paiement qui aurait été inédit et aux répercussions catastrophiques. Pour une analyse, Jean-Roger Bion a joint à New York le politologue Mohamed Mbodj.
Au fond, c'est le status quo qu'on va préserver. Ensuite, c'est pour 2 ans, peut-être, on ne va pas débattre de ce problème. Et les 2 extrêmes de ces partis, républicains et démocrates, se sont fait entendre par leur base, d'une certaine façon, pour bien montrer donc leur bonne volonté, leur capacité de lutter. Mais en fin de compte, la logique, disons, législative du milieu a prévalu.
Est-ce que l'essentiel n'était-il pas d'éviter le défaut de paiement aux États-Unis, puisque le président a dit que c'est la victoire de l'Amérique?
Ah oui, tout à fait. Cette limite de la dette américaine a été automatiquement levée sous tous les présidents, à quelques exceptions près. En particulier sous Trump, ça n'a jamais fait l'objet de débat. Mais c'est une crise qui est très dangereuse, parce que si les États-Unis ne payent pas leurs dettes, ne payent pas les engagements, évidemment, ça veut dire que sa situation financière n'est pas aussi positive et ça peut entraîner une dégradation de sa cote, de sa notation de crédit. Et à partir de ce moment-là, le crédit va devenir plus cher, le crédit va devenir plus rare, le dollar serait tombé un peu plus, les cours de la bourse auraient suivi. Donc c'est effectivement une crise majeure qui a été évitée. Mais encore une fois, c'est une crise majeure qu'on a créée de toutes pièces pour pouvoir ensuite l'éviter.
La résolution telle qu'elle a été faite ouvre un chemin de compromis entre la droite et la gauche. Est-ce que c'est une porte ouverte pour les prochains compromis?
Oui, je pense bien, parce que là, c'est une manœuvre où il y avait un temps limite qui était en dehors du pouvoir du Congrès, donc les dates fixées par le trésor américain était très clair et très ferme et très net. Et donc, de ce point de vue-là, les acteurs ne pouvaient pas s'aménager des espaces, prolonger les délais, jouer les prolongations, les arrêts du jeu, tout ça. Donc, en fin de compte, ça veut dire qu'il y a bien une maîtrise de ce balai législatif qu'on va peut-être répéter dans d'autres cas et dans d'autres circonstances. Donc, ça montre que Biden et McCarthy peuvent coexister. Un parti républicain qui vire très fortement à droite, qui est très populiste, etc., entraîné par Trump, est suffisamment capable de, disons, de regarder au-delà de l'horizon immédiat pour pouvoir gouverner en entente avec le parti démocrate et donc au centre.
Mohamed Mbodj, professeur d'histoire à Manhattanville College à New York.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler et participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Et voilà, Le Monde Aujourd'hui prend fin ici. La mise en onde a été assurée par Georges Léonard Sagno. Merci, chers amis fidèles de la VOA, de nous avoir accueillis chez vous ce soir. C'était Jacques Aristide à Washington. Toute l'équipe de la production et de la rédaction se joint à moi pour vous souhaiter une très belle soirée et un excellent week-end. À très bientôt. Take care.